Journal des sports, et on commence avec du handball et les Françaises qui sont passées très près de l'exploit ce week-end donc dans la Coupe du Monde de handball avec une défaite en finale contre le Danemark. Retour sur ce match avec Christophe Desramzian.
J'ai passé du rêve au cauchemar, littéralement 20 premières minutes à faire jeu égal et puis une séquence quasi euphorique pour les Bleus qui se détachent à plus 3 voire même plus 6 sous l'effet début d'Estelle Zeminko mais aussi de parades importantes de Laura Gloser, la gardienne. Les Norvégiennes sont mises sous l'été noir vraiment par la défense tricolore. Le trio offensif norvégien ne fonctionne pas du tout. Les Françaises retournent au vestiaire en menant 16-12 et en revenant, eh bien le match s'inverse totalement. Les Norvégiennes retrouvent leur base arrière et leur inspiration. Ça se traduit d'entrée de jeu par un 4-0 pour les championnes d'Europe. Et ensuite, les Bleus entrent dans un trou noir complet. 11 minutes sans marquer le moindre but. Le jeu français se délite complètement. Perte de balle, tentative de but sur contre-attaque vont danger. Quand dans le même temps, les Norvégiennes retrouvent leur efficacité. Et la gardienne, Silje Solberg, devient infranchissable. Elle terminera d'ailleurs avec 50% d'arrêt. Les Scandinaves finiront par gérer tranquillement un match qui a totalement filé entre les doigts des tricolores d'une période à l'autre, comme l'explique l'arrière Estelle Zeminko.
Ce soir, il y a deux matchs. Il y a une première mi-temps géniale où on a le contrôle du match et il y a une deuxième mi-temps où on perd complètement pied et plus rien ne marche, ni notre défense, ni notre attaque, ni nos montées de balles, ni nos duels tireurs-gardiens. On est, je pense, aussi impacté un peu par le scénario du match où on peut se retrouver à plus 7, voire plus 8 à la mi-temps et en finale, on est à plus 4 et je pense que ça leur permet mentalement de rester dans le match et de se dire que tout est encore possible là où on aurait pu les impacter encore plus et finalement elles reviennent hyper vite en début de deuxième et elles prennent le lead directement et voilà, on est impacté mentalement par cet échec.
La Norvège qui décroche son 4e titre mondial, le 14e sacre international de son histoire.
Voilà, donc Christophe Desramzian a noté que plus de 4 millions de personnes ont regardé ce match à la télévision en France. C'est un record pour du handball féminin. Allez, on passe au football maintenant. C'était week-end de Coupe de France en France. Retour sur quelques surprises avec Marie-Amélie Motte.
Oui, malgré les 5 divisions d'écart entre les deux équipes, l'INAS Montlhéru a battu Angers 9e de Ligue 1. Une victoire 2-0 grâce à un doublé de l'attaquant guinéen Pascal Leno. À l'issue de la rencontre, l'entraîneur du club de l'Essonne, Stéphane Cabrelli, a fait part de sa fierté.
Ça fait plusieurs années qu'on est tous ensemble. C'est un groupe qui est sain, qui est réceptif et je pense qu'ils le méritent. C'est eux qui vont chercher leur victoire aujourd'hui. Ils ont tout appliqué à la lettre et même plus. Je dirais, je suis vraiment fier d'eux et fier d'être leur entraîneur. On avait un plan de jeu, certes. Je leur avais demandé d'être ambitieux au niveau du jeu, sans prétention, bien évidemment. Et on voulait le gagner, donc on a réussi. C'est vrai que ce départ nous a mis vraiment dans de bonnes dispositions. Après, on a eu beaucoup de sérénité. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire qu'il ne pouvait pas nous arriver grand-chose. Enfin, en tout cas, c'était l'impression que ça nous donnait. Donc c'est le petit qui bat un gros, ça nous permet de voir, même pour les joueurs, de voir un petit peu la différence entre nous et eux. Donc c'est une compétition qui est extraordinaire.
En 16e de finale, l'INAS Montlhéry affrontera Amiens, un club de Ligue 2. On écoute maintenant la réaction du capitaine du SCO d'Angers, Romain Thomas, déçu mais assez lucide sur le match.
On est prévenu, on connaît tous la Coupe de France, on sait que le cœur, l'envie, je pense qu'on a... On a fait un match sérieux comme nous a dit le coach. Par contre, il faut mettre plus de créativité. On était en grande difficulté face à un bloc bas. Ils ont mérité plus que nous la qualif, il n'y a rien à dire. Ils ont été bien plus opportunistes que nous. On a ce qu'on mérite. On a manqué un petit peu de tout ce soir pour passer.
Et autre surprise hier, la qualification pour les 16e de Bergerac, un club de 4e division, tombeur de Metz au tir au but, Metz 18e de Ligue 1. À noter également la très large victoire de Bordeaux, 10-0 face aux amateurs des jumeaux de Mzoisia, un club de Mayotte, quadruplé du Sénégal Mbaye Niang. Et on connaît déjà les affiches des 16e avec notamment un alléchant derby du Nord entre Lens et Lille.
Marie-Amélie Motte. Alors on va parler maintenant de football en Angleterre, on va faire une grande page sur le football en Angleterre. Tout d'abord pour parler de ces matchs reportés qu'il y a eu à cause donc de Covid et donc de pandémie, comme nous l'explique Cédric De Oliveira.
18e journée de Première Ligue, donc 18e journée tronquée, 6 matchs reportés sur 10, ça fait beaucoup quand même. Il y a donc eu 4 rencontres, mais on va d'abord commencer par évoquer les conséquences de la pandémie sur le championnat. On a vu aujourd'hui l'entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, furieux après le match nul 0-0 face à Wolverhampton. Il aurait aimé que son match soit reporté. Alors Philippe, est-ce qu'il ne fallait pas mieux tout simplement reporter toute cette journée ?
Ce serait très très compliqué pour la Première Ligue de prendre une telle décision pour une raison toute simple, c'est le fait que la saison anglaise n'est pas élastique, particulièrement en 2021-2022. Je vous explique pourquoi. Nous avons une Coupe du Monde de 2022 qui va commencer au mois de novembre et à cause de cela, on a décidé que la saison à venir, donc 2022-23, en Angleterre, commencerait plus tôt que dans quelque autre saison de l'histoire de la Première Ligue. Donc on a une espèce de date butoir qui fait qu'on a très peu d'espace pour pouvoir recaser des matchs. Quand vous pensez en plus de ça que les 7 clubs anglais sont toujours engagés dans les compétitions européennes, que nous avons la Coupe de la Ligue, que nous avons la FA Cup, et nous devions avoir un mini break hivernal, tout cela, vous mettez tout cela ensemble, et vous vous rendez compte que la marge de manœuvre de la Première Ligue est extrêmement limitée, ce qui explique pourquoi, en ce moment, sa position, je dis bien en ce moment, c'est nous jouons tous les matchs que nous pouvons jouer, et en espérant que les conditions sanitaires vont s'améliorer dans un avenir plutôt proche. Alors cela dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème, comme le signale Thomas Tuchel, il y a des problèmes de cohérence. Il y a certains clubs dont on reporte les matchs et d'autres dont on ne les reporte pas. Et parfois, les raisons pour lesquelles c'est le cas pour l'un et pas pour l'autre sont assez difficiles à comprendre. Ça, on doit l'admettre.
Les retours sur les 4 matchs qui ont donc bien eu lieu avec Philippe Auclair.
Manchester City qui s'est imposé sans bavure contre Newcastle, tandis que Chelsea faisait donc match nul contre les Wolves et que Liverpool, dans ce qui était sans doute le plus beau match ou le match le plus passionnant de la saison à ce jour, a fait match nul 2 partout.
Ah,
c'était pas mal, oui. A fait match nul 2 partout dans un stade de Tottenham qui, c'est vrai, était bondé de spectateurs, dans la plupart n'étaient pas masqués. Bon, ça c'est une autre chose. C'est l'Angleterre de cette pandémie qui est assez différente, on va dire, des autres pays en Europe, voire des autres pays tout court. Mais c'est vrai que le spectacle était à la hauteur à Tottenham, mais le grand vainqueur est bien évidemment Manchester City qui fait un mini break. Ce n'est encore qu'un mini break par rapport à ses deux principaux rivaux, à savoir Chelsea et Tottenham. Sans oublier, cela dit, n'oublions pas également l'autre match qui s'est joué hier, qui a permis à Arsenal de conforter sa place dans le top 4, ce qui n'était pas nécessairement évident après les 3 premières journées de cette saison.
Philippe Auclair, et un petit coup de projecteur sur Tottenham. Tottenham qui a fait donc match nul, vous l'avez entendu, contre Liverpool. On écoute la réaction d'Antonio Conte, l'entraîneur de Tottenham.
C'était une bonne performance, un bel effort, avec une grande implication de tous mes joueurs. Ce n'était pourtant pas facile après 2 semaines sans jouer durant lesquelles on a beaucoup souffert. C'est donc très bien d'avoir obtenu ce point, surtout contre Liverpool, qui est selon moi l'une des meilleures équipes du monde à l'heure actuelle. Jouer contre eux n'est jamais facile. Mais d'un autre côté, comme je l'ai dit aux joueurs, on doit être déçu. On s'est créé énormément d'occasions de marquer, et quand on a la possibilité de tuer le match, on doit le faire et prendre les 3 points. Je suis donc partagé. C'était un bon match, mais quand vous livrez ce genre de performance, vous devez gagner.
Voilà, on continue sur le football et la question de la Coupe d'Afrique des Nations. La CAN sera-t-elle maintenue ? Devrait-elle maintenue ou pas ? Les explications avec Eric Mamrut.
Oui, la pression s'accentue sur la CAF, inquiète de la propagation en Europe du variant Omicron, inquiète des menaces des grands clubs européens de ne pas envoyer leurs internationaux à la CAN. La Confédération africaine s'est réunie ce dimanche en comité exécutif pour faire le point. Beaucoup se sont exprimés autour du président de la CAF, Patrice Motsepe. Les mots report, maintien et annulation ont circulé. Et même si aucun vote n'a conclu cette réunion, la majorité, selon nos informations, se sera prononcée contre un report de la CAN camerounaise. Il n'empêche, Patrice Motsepe va se rendre au Cameroun pour s'entretenir avec les autorités du pays, obtenir des garanties sur le protocole sanitaire publié cette semaine et qui impose la vaccination doublée d'un test PCR ou antigénique à toutes les personnes voulant venir au stade, des garanties sur l'applicabilité réelle de ce dispositif, obtenir des assurances donc afin de tranquilliser les clubs européens et freiner les velléités de la FIFA et de son président Gianni Infantino qui verrait d'un bon œil le report de cette CAN, lui qui a toujours été favorable à une Coupe d'Afrique tous les 4 ans.
Eric Mamrut, donc pour la CAN. Et on va passer au tennis pour conclure ce journal des sports. La joueuse chinoise Peng Shuai est réapparue ce week-end dans une vidéo dimanche, mais la WTA, donc l'organisation qui gère le tennis féminin, reste très inquiète. Stéphane Lagarde.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que la star chinoise du tennis féminin a pris le temps de la réflexion. 47 jours après son post censuré sur le réseau social Sina Weibo, Peng Shuai affirme que son message a été mal compris. Veste noire, drapeau chinois, la boutonnière, l'ex-championne du double à Roland-Garros se confie au liendreux Zhao Bao en marge d'une course de ski nordique à Shanghai.
Tout d'abord, je dois souligner un point extrêmement important. Je n'ai jamais dit ou écrit que quelqu'un m'a agressé sexuellement. Je dois clairement souligner ce point.
Dans cette vidéo de 6 minutes publiée sur le site du premier quotidien en langue chinoise de Singapour, Peng Shui dit également vivre chez elle à Pékin sans surveillance. La censure de son message initial, suivie de sa disparition médiatique, avait inquiété la planète tennis. À aucun moment dans cette vidéo, pour la première fois diffusée sur un média étranger en langue chinoise non censurée en Chine, Peng Shui ne fait mention de celui qu'elle semblait accuser au départ, à savoir l'ancien vice-premier ministre chinois Zhang Gaoliste.
Voilà donc pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. A tout de suite.